18h, on retrouve le journal avec Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé Gardette, bonsoir à tous. La police a arrêté un suspect aux États-Unis dans le New Jersey. Il s'agirait de l'homme de 28 ans, soupçonné d'être le poseur de plusieurs bombes artisanales ce week-end. L'homme d'origine afghane a été blessé pendant l'interpellation. Nous serons sur place avec Frédéric Carbone dans un instant. En Allemagne, Angela Merkel fait un mea culpa à propos de l'accueil des migrants après la défaite électorale de son parti, la CDU, à Berlin ce dimanche. Nous serons en ligne avec Cyril Sauvageau. Dans cette édition, nous verrons aussi que Engie, autrefois GDF Suez, se retrouve dans le collimateur de Bruxelles. La Commission européenne soupçonne que le groupe a organisé des montages fiscaux en 2009 et 2011 pour échapper à l'impôt au Luxembourg. Explication de Jean-Marc Chardon. Et puis nous serons aussi en Israël où des attaques au couteau se multiplient. Cette attaque depuis vendredi dernier, nous dira Étienne Monin. Les États-Unis font-ils face à une attaque terroriste de grande ampleur qui aurait avorté ? La question reste entière après un week-end où plusieurs bombes artisanales ont été découvertes à la fois à New York et dans le New Jersey. Un homme vient d'être arrêté, on y revient dans un instant. Mais d'abord ce récapitulatif. Samedi soir à Chelsea, une explosion a fait 29 blessés alors qu'une deuxième cocotte minute était découverte à 4 blocs de là seulement, sans faire de victimes. Le matin même samedi, donc dans le New Jersey, un engin a explosé dans une station balnéaire de Seaside Park, juste avant le démarrage d'une course caritative dont le départ avait été retardé, heureusement, donc pas de blessés. Toujours dans le New Jersey, cette fois dans la ville d'Elizabeth, un colis avec 5 bombes artisanales a été désamorcé hier soir dimanche. Alors les autorités ont d'abord été très prudentes. Le gouverneur de New York a même nié tout lien avec le terrorisme international, mais les enquêteurs ne sont plus du tout aussi sûrs. Le FBI et la police ont parlé d'éléments communs aux attaques projetées dans ces deux endroits et elles ont donc voulu d'abord interroger un suspect qu'elles viennent d'arrêter à l'instant. Frédéric Carbone, vous êtes à Washington.
La chasse à l'homme aura été rapide. Le suspect des attaques de New York a été arrêté dans le New Jersey, dans la ville de Linden, après une fusillade. La chaîne CNN affirme que cet homme de 28 ans est en prison. Ahmed Rahani a-t-il été localisé après l'appel à témoins relayé par tous les médias américains? Le FBI a en tout cas diffusé largement la photo de cette Américaine née en Afghanistan. Et dans la région de New York, tout le monde a reçu un message sur son portable appelant à la vigilance et à la prudence. Des moyens policiers exceptionnels ont été déployés à New York. L'état d'alerte n'a jamais été aussi élevé depuis le 11 septembre. Des images diffusées à la télévision montrent donc le suspect allongé sur un brancard en train d'être transporté dans une ambulance. Des témoins disent qu'ils ont entendu des coups de feu. L'enquête se concentre depuis plusieurs heures dans le New Jersey. C'est en effet là, dans la ville d'Elizabeth, qu'habite Ahmed Rahani, et c'est dans cette ville que 5 bombes artisanales ont été découvertes la nuit dernière dans une poubelle. Ce suspect a pu être identifié grâce aux images de caméras de vidéosurveillance du quartier de Chelsea à New York. Il sera interrogé dès que son état de santé le permet. Les autorités de New York parlent en tout cas déjà d'actes liés au terrorisme international. Ce sont les mots du gouverneur de l'État ce matin. Et ces attaques durcissent le climat sécuritaire de la campagne présidentielle. Donald Trump évoque le politiquement correct qui empêche les policiers de faire tout travail d'infiltration dans les mosquées. Hillary Clinton met-elle en garde contre toute stigmatisation, mais elle réclame un durcissement des contrôles pour l'entrée aux États-Unis. Elle insiste en particulier sur une politique de visa plus restrictive.
Frédéric Carbone à Washington. Les services de sécurité sont d'autant plus sur les dents qu'à New York arrivent des dizaines de chefs d'État et de gouvernement en ce moment pour l'Assemblée générale de l'ONU. 193 États sont réunis. Et puis sur le terrain de la guerre en Syrie, qui fait partie des priorités de l'ONU cette année, l'armée syrienne a décrété la fin de la trêve après une petite semaine sans armes ou presque. Trêve qui n'a pas permis d'acheminer de vivres. Les convois de l'ONU sont restés bloqués à la frontière turque. Convois qui devait rejoindre Alep. C'est un échec pour la communauté internationale. Les civils continuent à souffrir de la faim et du manque de médicaments. En Allemagne, la question des réfugiés est au centre de l'actualité. La CDU, le parti d'Angela Merkel, a perdu 6 points aux élections régionales organisées à Berlin, dans la capitale. Hier, elle obtient 17% derrière le SPD, avec 21%, lui aussi a été en forte baisse. A noter que la gauche de la gauche, Die Linke, et que les Verts ont progressé avec respectivement 15% des voix. La chancelière accumule donc les revers électoraux, c'est le deuxième en 15 jours, et forcément sa gestion de la crise syrienne pose question. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Vous êtes à Berlin. Alors Angela Merkel vient de faire un mea culpa après ses régionales. Elle dit que si elle le pouvait, elle remonterait dans le temps pour être mieux préparée à la crise migratoire de 2015. C'est comme un peu l'aveu d'une erreur. Cyril, est-ce que c'est aussi le début d'un changement de stratégie politique ?
Eh bien, Angela Merkel n'a plus le choix si elle veut pouvoir briguer un quatrième mandat de chancelière l'an prochain. Elle va devoir entendre le message des électeurs et le désarroi de son parti. Deux défaites en deux semaines. D'abord dans son fief, le Mecklembourg, et maintenant à Berlin, où la CDU atteint son plus bas niveau historique. Le parti chrétien-démocrate est en train de devenir une machine à perdre. Et partout, l'accueil des réfugiés cristallise le mécontentement, même si d'autres thèmes propres à Berlin ont joué un rôle dans ce nouveau revers. Devant la presse tout à l'heure, Angela Merkel a donc pris sa part de responsabilité en reconnaissant que l'Allemagne aurait dû être mieux préparée à l'accueil des réfugiés en 2015. Un mea culpa plutôt inhabituel pour la chancelière qui n'utilise plus désormais son célèbre leitmotiv « Wir schaffen das ». Nous allons y arriver car la formule, dit-elle, a été vidée de son sens, critiquée, détournée notamment par l'AfD, le parti populiste, qui fait son entrée au Parlement de Berlin avec 14% des voix. Mais comment regagner la confiance des électeurs tentés par ce vote protestataire? Sur quoi céder sans renier l'essentiel de sa politique? La chancelière n'a pas donné de réponse concrète aujourd'hui, mais elle est apparue plus combative qu'abattue, déjà un peu en campagne, même si elle n'est pas encore officiellement candidate à sa propre succession.
Cyril Sauvageau à Berlin, merci. Non, l'immigration n'est pas un coût pour les pays d'accueil, c'est le credo de l'OCDE qui publie un rapport sur l'immigration. Les 35 pays de l'OCDE qui vont de l'Europe aux États-Unis en passant par le Canada, le Chili ou la Turquie ont accueilli en 2015 1,65 million de demandeurs d'asile, c'est 10% de plus que l'année précédente, 2014. Et il ne faut pas avoir peur de ces arrivées, affirment les chercheurs de l'OCDE. L'immigration a une incidence positive sur la croissance, à condition d'organiser l'intégration. Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l'OCDE.
Une des questions importantes, notamment pour ceux qui viennent s'installer durablement, qu'ils aient bénéficié de la protection internationale ou qui viennent dans le cadre du regroupement familial, c'est celle de l'intégration. Aujourd'hui, on observe dans l'Union européenne qu'il faut environ 20 ans pour que, en moyenne, les gens qui rentrent dans ces deux catégories atteignent le même taux d'emploi que les gens qui sont nés dans le pays. Ce temps est trop long. Il faut absolument mettre en place des politiques qui permettent de valoriser les compétences des migrants qui arrivent. Et parmi les réfugiés, il y a nombre d'entre eux qui ont des compétences qui sont recherchées et valorisables sur le marché du travail. Il faut simplement les amener vers l'emploi, leur faciliter l'apprentissage de la langue, faciliter l'acquisition de compétences complémentaires, les mettre en relation avec les employeurs, de sorte que l'immigration, y compris celle des réfugiés, apporte sa contribution au développement économique de l'Europe. Une Europe vieillissante qui bénéficie déjà du phénomène migratoire. C'est pas un coût, l'immigration, c'est une chance si elle est bien gérée et si on fait les investissements là où il faut.
Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Engie a-t-il triché? Plus exactement, le groupe GDF Suez. À l'époque, il n'avait pas encore changé de nom. Ce groupe, dont l'État français détient encore un tiers du capital, a-t-il voulu échapper à l'impôt? La commission de Bruxelles en paraît assez convaincue. Elle lance une enquête approfondie sur les pratiques d'Engie. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir Tara.
L'histoire se passe au Luxembourg, un des membres historiques de l'Union européenne, qui est aussi un des pays où l'optimisation fiscale est la plus répandue. Engie aurait donc monté deux opérations financières suspectes au Luxembourg en 2009 et en 2011.
En effet, et c'est une affaire assez étrange qui est en train d'émerger. Il s'agirait de deux transactions financières qui en réalité n'en constitueraient qu'une. Alors, c'est-à-dire qu'une même transaction financière aurait été considérée à la fois comme un emprunt et comme une prise de participation. De la sorte, eh bien, les emprunteurs ont-ils pu déduire les intérêts générés par leurs bénéfices imposables au Luxembourg? Quant aux prêteurs, eh bien, ils ont pu se comporter comme si la transaction constituait non plus un emprunt, mais une prise de participation. C'est-à-dire que les revenus tirés de l'opération ont été enregistrés comme une rémunération de capital et à ce titre exonérés d'impôts. D'où l'apparition de quoi? Eh bien, d'une double non-imposition à la fois au profit des prêteurs, à la fois des emprunteurs. Si ce schéma se confirme, l'entreprise aurait gagné sur les deux tableaux, rigoureusement impossible en droit d'après la commission. Alors faut-il en déduire que le ministère luxembourgeois n'a rien vu? Pour l'heure, il assure qu'aucun traitement fiscal particulier n'a été octroyé à des sociétés du groupe Engie au Luxembourg, ce qui manifestement n'est pas l'avis de la commission. Elle craint, elle, que ce montage ait profité à Engie, lui conférant un avantage injustifié par rapport à d'autres sociétés. Affaire en tout cas qui risque d'être plus complexe encore. accord avec l'État en arrière-plan, l'État français, cette fois qui détient près du tiers du capital d'Engie, de quoi donc alimenter une vaste campagne de soupçons à répétition.
Merci beaucoup Jean-Marc Chardon. En bref, cette autre enquête ouverte en France et qui vise cette fois Areva, le syndicat national du nucléaire CFE-CGC, a porté plainte. Il affirme que la direction d'Areva a incité ses salariés à souscrire un plan d'actionnariat en 2013 tout en dissimulant l'état exact des finances du groupe à ce moment-là. Le géant du nucléaire accuse un déficit chronique, les actions fortement baissées depuis 2013. Les salariés estiment que leur direction savait que la situation allait se dégrader. Près de 300 agents se sont joints à la procédure et le parquet national financier ouvre donc une enquête préliminaire. Et puis à noter aussi qu'Areva, comme Suez tout à l'heure, va changer de nom. L'entreprise s'appellera Newco. C'est une promesse qui se concrétise. Les artistes l'attendaient depuis un moment. Au printemps dernier, le gouvernement de Manuel Valls était parvenu à un accord sur le système d'assurance chômage des intermittents. Et cet après-midi, donc, il a présenté le dernier étage de cet édifice, un fonds national pour favoriser l'emploi pérenne dans le secteur de la culture. Bonsoir Sarah Petitbon.
Bonsoir Tara.
Ce fonds sera abondé à hauteur de 90 millions d'euros. Comment va-t-il fonctionner, Sarah ?
Et le gouvernement lui a donné un petit nom vitaminé, le fonds PEPS, pour Fonds National pour l'emploi pérenne dans le spectacle. Vous l'avez dit, ambition affichée, aider l'emploi plutôt que le chômage. En clair, il s'agit pour le gouvernement de favoriser la création de CDI pour d'une part lutter contre la précarité qui règne dans le secteur, mais aussi augmenter le nombre de cotisants au régime d'assurance chômage des intermittents. Au centre du dispositif, deux mesures phares. La première, une prime à l'emploi pérenne réservée aux entreprises du spectacle qui embaucheront un intermittent en CDI. Elle pourra atteindre 28 000 euros. Deuxième mesure, l'aide aux premiers salariés. Là encore, il s'agit de favoriser l'embauche en CDI dans les structures les plus petites. Montant du coup de pouce, 8 000 euros étalés sur 2 ans. Parmi les autres mesures très attendues, une aide à la garde d'enfants pour les intermittents. Elle prendra la forme de crédit d'impôt et devra faciliter le retour à l'emploi après un congé maternité ou paternité. Enfin, les secteurs du spectacle les plus fragiles, comme les cafés culture, la musique, le théâtre ou la danse, seront eux aussi soutenus. En tout, 10 000 personnes seront concernées par ces aides, selon les prévisions du gouvernement. C'est un peu moins de 10% du nombre d'intermittents indemnisés. Chez les syndicats, on se réjouit de ces mesures, même si certaines inquiétudes demeurent, notamment sur les modalités d'attribution de ces aides. Des aides dont la mise en place sera effective dès la fin de cette année.
Merci beaucoup Sarah Petitbon. On va s'intéresser maintenant à APB Post-Bac. APB Post-Bac, c'est le système informatique qui fait le tri entre les vœux des lycéens après leur obtention du baccalauréat, quand ils veulent aller à l'université ou dans une grande école. Le système informatique ne remplit pas toujours sa mission. À la mi-juillet, les deux tiers des jeunes inscrits sur APB avaient accepté l'orientation qui était proposée par ce portail et seulement 56% d'entre eux avaient obtenu leur vœu numéro 1. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Depuis le printemps dernier, cet algorithme APB est dans le collimateur de l'association Droits des lycéens et cette association semble avoir obtenu gain de cause.
Ben oui, parce que la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, a donné raison vendredi dernier à l'association Droits des lycéens. Le ministère de l'Éducation nationale va donc devoir dévoiler le code source de cet algorithme APB, c'est-à-dire dévoiler comment, par quels critères se font les tris dans les orientations post-bac. De quoi lever le voile sur une sélection proscrite en théorie, mais qui s'opère dans les faits, selon des critères opaques, explique l'association Droits des lycéens. Parce que normalement, dans les filières non sélectives, c'est-à-dire hors classe prépa, hors BTS, hors IUT, hors école de commerce, eh bien, l'université, en théorie, accueille tous les titulaires du baccalauréat. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de monde à vouloir suivre des études supérieures. Alors, dans certaines filières, comme le droit, la médecine, la psycho, c'est bondé et les universités doivent faire un tri qui cache son nom. Alors officieusement, les premiers servis sont souvent les bacheliers qui s'inscrivent dans leur académie, ainsi que ceux qui ont placé la formation en premier choix. Mais pour tous les autres, et notamment les étudiants en réorientation, ou encore ceux qui veulent intégrer des filières en tension, c'est-à-dire où les places d'accueil sont limitées, alors là, c'est le grand flou, avec, dans le pire des cas, la loterie, c'est-à-dire la mise en place d'un tirage au sort. Impossible, illégal, fustige l'association Droits des étudiants, qui recense 250 plaintes d'étudiants contre APB. Par 3 fois déjà, le tribunal administratif a donné raison aux étudiants depuis le mois de juin dernier. Et pour l'instant, le ministère ne communique pas. Il promet avant le prochain APB en 2017 une circulaire qui préciserait les sélections. Quand les présidents d'universités de leur côté demandent, eux, la mise en place de prérequis, particulièrement dans ces filières en tension, avec par exemple, pourquoi pas, un niveau de langue suffisant pour pouvoir intégrer la filière.
Cécile de Kervas-Douet, merci. On part maintenant pour Israël où trois policiers ont été blessés ce matin. L'un est grièvement atteint. Les jeunes Palestiniens qui ont tenté de poignarder ces hommes ont été abattus. L'attaque s'est produite près du tombeau des patriarches à Hébron, en Cisjordanie. Il s'agit donc d'attaques au couteau similaires à celles qui ont semé la peur en Israël à l'automne dernier. Le climat s'était plutôt apaisé depuis. Étienne Monin, vous êtes à Jérusalem. Il faut noter une réelle recrudescence puisque le pays a vécu 7 attentats au couteau depuis vendredi dernier.
Et ce qui s'est passé, des attaques répétées sur une période concentrée qui touche Jérusalem et Hébron, ressemble à une anticipation du scénario redouté par les militaires israéliens qui craignent une résurgence des attaques à l'approche des fêtes juives programmées début octobre. Ces derniers mois, les attaques étaient devenues épisodiques. Leur nombre avait sensiblement diminué autour du mois de mars. Les Palestiniens ne croyaient plus à leur effet sur la politique d'occupation. La vague d'attaques avait pris la forme d'opérations plus ponctuelles, mais aussi mieux préparé avec l'utilisation d'armes artisanales dont les ateliers de fabrication sont maintenant régulièrement démantelés depuis le mois de juin. Pour autant, le contexte qui explique ces actes désespérés menés par de jeunes Palestiniens en dehors des organisations armées, ce contexte reste le même. Il n'y a toujours pas de perspective de paix, pas de profonds assouplissements dans le contrôle de la Cisjordanie et pas d'horizon politique clair côté palestinien après le report des élections municipales qui auraient offert la seule fenêtre d'expression pluraliste depuis maintenant 10 ans. La politique sécuritaire d'Israël dans la gestion de cette violence n'a pas traité les causes. L'autorité palestinienne reste rejetée par sa propre jeunesse. Presque un an après le déclenchement de cette vague de violence, le phénomène menace de redevenir quotidien. Le contrôle d'Internet n'empêche pas l'effet d'entraînement et le contexte religieux entre la fin des fêtes musulmanes et l'approche des fêtes juives explique pour certains le regain de violence.
Étienne Monin. Et puis en bref, ces violences à Kinshasa, en République démocratique du Congo, l'opposition voulait manifester pour dissuader le président Kabila de se représenter à la fin de son mandat. Bilan de cette manifestation, 17 morts, 2 policiers au moins ont été tués. En Inde, la société est patriarcale et les violences faites aux femmes sont nombreuses. Le viol collectif qui avait coûté la vie à une étudiante dans un bus de New Delhi est dans toutes les mémoires. Et pourtant, dans ce pays, en parallèle, une autre réalité émerge à la faveur d'Internet, l'émancipation sexuelle de la jeunesse urbaine à travers des applications de rencontres. L'amour en Inde 2.0, c'est un reportage de Sébastien Farsi.
Le quartier branché du sud de New Delhi. Les hommes portent le cheveu gominé et le t-shirt moulant. Les jupes des femmes sont courtes et révélatrices. Mais à une table, de jeunes indiennes se divertissent sur leur téléphone en effleurant les écrans d'un coup à droite, d'un autre à gauche. Autant de profils de garçons acceptés ou rejetés. L'application Tinder a pénétré la nuit de Delhi et enflamme les désirs. Lily, une charmante étudiante de 25 ans, a vu sa vie sexuelle et même sentimentale changer grâce à ses applications de rencontres sur smartphone. Il y a un an, c'est d'ailleurs sur Tinder qu'elle a rencontré son partenaire actuel.
Je pense que beaucoup d'hommes en Inde agissent de manière oppressive avec les femmes. Ils ne savent pas comment les approcher et n'acceptent pas un non. Tinder vous offre beaucoup plus de contrôle. C'est moi qui fais glisser le profil à droite s'il m'intéresse. Vous pouvez aussi bloquer ou dénoncer quelqu'un, ce qui est très pratique. Grâce à ces plateformes, je suis donc sortie avec plus d'hommes.
Dans sa chambre de célibataire située sur les toits de la capitale, Ishan, 31 ans, vit à fond cette révolution sexuelle. Fini les cafés interminables pour faire connaissance, la dernière fille qu'il a connue grâce à l'application Happen est venue pour la première fois directement chez lui pour une fête qu'il organisait. Ils ont sympathisé et elle a fini par emménager dans l'appartement d'à côté en tout bien tout honneur pour l'instant. Pour Ishan, ces changements de mœurs sont fulgurants.
Les jeunes d'aujourd'hui ont des petites copines dès 16 ans. Ils sortent, voire couchent ensemble. Moi, je n'ai jamais eu de copine jusqu'à l'université. Et encore, c'était une relation sérieuse. En 10 ans, cela a radicalement changé. Des gens se voient parfois juste pour coucher ensemble maintenant. Les femmes, elles sont devenues bien plus malines. Elles savent ce qu'elles veulent. Quand vous parlez sur une application, si elle aime la conversation, elle va continuer. Sinon, elle va tout arrêter. Et c'est cela qui est bien avec ces applications, c'est qu'on peut opérer cette vérification en amont.
Ce libertinage mène parfois à des histoires sérieuses. Un ami d'Ishan est ainsi sur le point d'épouser une femme rencontrée sur Tinder. Mais même une fois mariés, ces applications peuvent demeurer utiles pour compenser des manques dans le couple, explique Priyanka, âgée de 28 ans.
Beaucoup de mes copines mariées deviennent bisexuelles, car elles me disent comment leur mari fait l'amour avec elles. C'est ainsi, le mec est excité, il l'approche, il éjacule et c'est fini. Pas de préliminaire ni de réflexion sur ce que la femme a ressenti ou ce qu'elle aimerait explorer. La femme devient donc frustrée. Et grâce à Internet et aux différents sites, elle peut ainsi rentrer en contact avec d'autres femmes pour avoir plus de plaisir.
Aujourd'hui, à peine un quart des Indiens ont accès à Internet sur leur mobile, mais le marché est en pleine explosion. On estime d'ailleurs que près de 10 millions de jeunes utilisent déjà les trois principales applications de rencontre, dont deux ont été créées en Inde.
Voilà pour ce reportage de Sébastien Farcy. Demain, beaucoup de grisailles, j'allais dire au nord, mais non, c'est pas vrai. Météo France nous promet même des éclaircies. J'aime s'y tremper. Surtout sur la côte d'Azur, où il y aura pas mal de tramontanes et de mistral. C'est la fin de cette édition.